Radio Fribourg.
Coin de ciel avec Sœur Marie-Pierre.
Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, c'est en compagnie du Père Marie-Joseph Huguenin que nous allons passer cette demi-heure. Il est l'auteur d'un ouvrage paru aux éditions des Béatitudes, L'Église des Apôtres, un modèle pour aujourd'hui. Père Marie-Joseph Huguenin, bonjour.
Bonjour.
Dans votre livre, vous mettez en lumière l'extraordinaire fécondité des deux premiers siècles de l'Église pour résoudre la profonde crise de l'Église d'aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous allé puiser aussi loin pour résoudre la crise actuelle?
Alors, en effet, comme le titre de mon livre le dit bien, l'Église des apôtres, un modèle pour aujourd'hui, comment se fait-il qu'il faut revenir aux sources, peut-être pour justement trouver des solutions très concrètes pour aujourd'hui? Eh bien, je dirais tout d'abord qu'au 1er siècle, au temps des apôtres, il y avait un très grand enthousiasme d'être chrétien. Le Christ est ressuscité, il y a la Pentecôte, le don de l'Esprit, et il y a une prise de conscience extraordinaire de ce que cela signifie. Notamment le baptême qui devient le sacrement central. Pourquoi? Parce que par le baptême, eh bien, se constitue le peuple messianique. Il a reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Chacun a revêtu le Christ. Il est vraiment Messie, oint. Il a reçu l'Esprit Saint. Il est habité par Dieu et aussi il est fils ou fille de Dieu. Et à ce titre, donc, il y a une prise de conscience de l'extraordinaire événement de l'avènement du Christ, de sa résurrection et de la Pentecôte. Et cela engendre toute une dynamique faite d'enthousiasme, de joie et surtout d'amour.
D'une manière générale, les convertis sont très enthousiastes. Cherchent-ils aujourd'hui à revivre comme les chrétiens des deux premiers siècles de l'Église?
Alors effectivement, je crois que le converti adulte, il prend conscience peut-être d'une façon plus vive que les autres qui ont reçu le baptême durant leur enfance, de la grandeur du baptême et de l'impact que ça a sur sa vie personnelle. Une vie de foi, c'est entrer dans la confiance, dans l'espérance, dans l'amour. Et certainement, il y avait ce phénomène au 1er siècle, mais il y avait aussi une compréhension très profonde de cet avènement qui est l'accomplissement des prophéties. Les prophètes avaient annoncé un nouveau peuple de Dieu, une nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que sur le mont Sinaï, Moïse reçoit les 10 commandements, et l'expérience du peuple de Dieu, c'est qu'il n'arrive pas à vivre ses commandements. Alors peu à peu, les prophètes s'interrogent, ils disent, mais comment cela se fait? Et en fait, peu à peu, les prophètes comprennent qu'il faut recevoir l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint devient quelque chose de tout à fait central, parce que si je reçois l'Esprit de Dieu, je serai capable de vivre dans la loi de Dieu, de vivre ses commandements, principalement l'amour de Dieu et du prochain. Et donc il y a là une prise de conscience très profonde de l'avènement d'un projet divin, celui de constituer un peuple animé par l'Esprit Saint, un peuple de prêtres aussi. Comme dit saint Paul aux Romains, je vous exhorte par la miséricorde de Dieu à offrir votre personne et votre vie en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et donc, on voit que chaque chrétien est prêtre par l'offrande dans l'amour de sa vie. Il est prophète. Pourquoi est-il prophète? Parce qu'il annonce la bonne nouvelle de l'Évangile au monde. Et il est roi ou reine parce qu'il règne avec le Christ. Donc il y a cette prise de conscience très profonde d'une identité nouvelle qui devrait effectivement enthousiasmer tous les chrétiens. Je pense que un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est au fond, on n'a pas suffisamment conscience de la grandeur de notre baptême.
Dans le livre des Actes des Apôtres, il est question donc des disciples qui n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, et puis qu'ils mettaient tout en commun. Est-ce qu'on pourrait encore en dire autant aujourd'hui?
Alors voilà, ce passage célèbre dans les Actes des Apôtres, Actes 2, 42, Voilà, ils étaient assidus à la prière, à la fraction du pain, à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, ils mettaient tout en commun. Et typique de cet événement du 1er siècle où les premiers chrétiens ont conscience que, d'une certaine manière, tout est arrivé. Le Christ a ressuscité, etc. Et donc, ils pensaient que le retour du Christ était imminent, et donc ça créait une espèce de chaleur, d'enthousiasme, de fraternité très très forte. Mais justement, ce qui est très intéressant à voir au 1er siècle, c'est que petit à petit, cette première communauté chrétienne prend conscience de certaines difficultés. En fait, voilà, il y a effectivement le don de l'Esprit Saint qui a été donné, mais l'Église est quand même en marche vers une plénitude qui sera la Jérusalem céleste. Et alors apparaissent des divisions au sein des communautés, au sein de la doctrine, aussi au niveau de l'Eucharistie. Certains font bombance alors qu'ils mélangent le repas et l'Eucharistie. Et donc peu à peu, on prend conscience qu'il faut davantage structurer l'Église. Parce qu'au 1er siècle, il y a une chose tout à fait remarquable et très importante pour notre temps, c'est que les lettres de saint Paul mettent en lumière que chacun est vraiment une pierre de l'édifice, parce que l'Esprit Saint donne à chacun un charisme, c'est-à-dire un don pour les autres. Chacun est un don pour l'édification de l'Église. Et cette Église se construit avec tous ceux qui sont là, présents dans les communautés chrétiennes. Et il n'y a pas d'un côté les évêques et les prêtres, et de l'autre les laïcs. Non, il n'y a que les baptisés qui ont différentes fonctions. Et donc, au début, l'Église s'organise de cette façon-là. Mais on voit que finalement, cette structure est fragile. Et dès le deuxième siècle, et ça certainement par la volonté des apôtres, dès le deuxième siècle, on voit prendre place cette structure que l'on connaît actuellement des évêques avec leurs délégués, les prêtres, pour structurer l'Église, pour garantir l'unité des communautés, l'unité dans la doctrine et la validité des sacrements.
Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe.
Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe.
Marche à la suite de Jésus.
Toi qui es son nom, sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde.
Père Marie-Josette, vous parlez aussi des anciens que les apôtres convoquaient pour les consulter avant de prendre des décisions importantes. Mais qui étaient ces anciens ?
Alors effectivement, je pense que c'est très intéressant de s'interroger sur les anciens qui sont très présents, on le voit surtout dans les actes des apôtres, parce qu'il y a quelque chose de tout à fait remarquable. Qui sont effectivement les anciens ? Alors les anciens sont une institution d'abord juive qui structurait les communautés juives. C'est un collège de notables, ou plus précisément de personnes à l'autorité morale reconnue. Et ces personnes prennent en charge la vie de la communauté. Et dans les premières communautés chrétiennes qui sont issues, qui sont toutes issues du judaïsme, eh bien ces anciens vont continuer de jouer un rôle de représentativité des communautés chrétiennes. Et donc les anciens, en fait, dans le langage aujourd'hui, on dirait, ce sont des laïcs qui parlent au nom des laïcs. Et alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que les apôtres, on pourrait s'imaginer du prestige qu'ils avaient, de l'autorité morale qu'ils pouvaient avoir, et pourtant, et ça c'est à cause de l'enseignement du Christ, ils sont là pour servir. Et quand ils doivent prendre des décisions importantes, ils ne s'imposent pas, mais ils convoquent les anciens qui représentent la communauté pour délibérer ensemble, pour une codécision. Et pourquoi ? Parce que c'est ce qui réalise la communion des personnes qui est le critère du discernement de l'Esprit Saint, du discernement de la volonté de Dieu. Et donc, on voit là une manière de gouverner qui est tout à fait intéressante. Les apôtres ne s'imposent pas, mais ils convoquent les anciens, autrement dit les laïcs, pour une codécision, de façon à trouver vraiment un chemin de communion où il y a une adhésion, et par conséquent une autorité beaucoup plus forte, une adhésion de tous au projet pastoral.
Père Marie-Josette, l'Église actuelle traverse une crise profonde. François, notre défunt pape, parlait du cléricalisme. un bien grand mot que je vais vous demander de nous expliquer et surtout de nous dire quelles en sont les conséquences.
Voilà, alors exactement, le cléricalisme, c'est exactement l'attitude opposée qu'avaient les apôtres dont je viens de parler. Le cléricalisme, c'est cette concentration du pouvoir sur les prêtres et un certain abus de pouvoir. Parce que si seuls les prêtres ont la décision, alors les laïcs, les paroissiens, ben, ils ont que deux choix possibles. Soit se soumettre, soit aller voir ailleurs. Hein. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème du cléricalisme, c'est que il y a effectivement aujourd'hui une concentration du pouvoir sur les évêques et les prêtres qui posent question. Parce que pour qu'une pastorale soit féconde, il faut qu'elle suscite l'enthousiasme des laïcs. Il faut qu'elle crée une adhésion. Et donc, il faut qu'elle soit synodale, c'est-à-dire collégiale, à l'exemple des apôtres qui convoquaient les anciens, qui représentaient les communautés. Et c'est ce que le pape François a compris d'une façon exceptionnelle. C'est le premier, au niveau du magistère, à parler du cléricalisme, de cette concentration du pouvoir sur les prêtres qui entraîne une certaine passivité des laïcs, et de répondre par la synodalité. Il a lancé ce synode sur la synodalité, c'est-à-dire d'aller dans le sens d'une collégialité et d'une codécision, à l'exemple justement des apôtres qui convoquaient les anciens.
On vient de parler des abus de pouvoir qui existent même au sein de l'Église. On parle moins de cela que des abus sexuels. Ils sont moins visibles, mais font aussi bien des dégâts dans la vie de ceux qui les subissent.
Alors effectivement, on a beaucoup parlé des abus sexuels. Je pense que c'est la pointe de l'iceberg, parce que il y a effectivement plus profondément un abus de pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'un abus ? Un abus, c'est quand quelqu'un s'impose à un autre, et contraint la conscience d'un autre, hein, où il n'y a plus de liberté. Et justement, là, il y a un vrai problème et une vraie réflexion dont je traite dans le chapitre 5 de mon livre, une nécessaire réforme de l'autorité dans l'Église. Pourquoi ? Parce que, au fond, on a toujours pensé, pratiqué dans l'Église, que les évêques et les prêtres, effectivement, représente le Christ tête, le Christ époux de l'Église, et par conséquent que c'est le Christ qui doit conduire son épouse, l'Église épouse. Hein. Mais il y a un vrai problème dans cette compréhension, parce que on risque d'avoir une attitude de type patriarcal, franchement, c'est-à-dire que c'est seuls les hommes qui décident, et puis les femmes sont soumises et se taisent. Et ça, c'est le problème de cette concentration du pouvoir et de cet abus d'autorité où on impose à l'autre sa vision des choses, son autorité. Et c'est pour cela que, au fond, le Christ lui-même est à l'opposé de cette vision des choses. Et si on revendique de représenter le Christ tête, le Christ qui a cette autorité suprême, divine, eh bien justement, c'est une autorité qui ne s'impose jamais. Ça, c'est très impressionnant. Voyez par exemple la parabole de l'enfant prodigue. Le père espère que son fils va revenir, mais il est là sur le seuil de sa porte et il ne peut pas s'imposer. Il ne va pas chercher son fils et le forcer à rentrer à la maison. Pas du tout. Donc c'est ça qui est très très intéressant. C'est cette autorité morale qui justement ne s'impose pas. Pourquoi ? Parce que c'est une autorité d'amour. Et l'amour ne s'impose pas. Je ne peux pas dire à quelqu'un « aime-moi ». L'autre est tout à fait libre d'adhérer ou non à cet amour. Donc l'amour suppose la communion, la codécision, l'accord des consciences. Et donc l'amour est essentiellement fait d'une écoute de l'autre, d'un accueil de l'autre et d'une réponse à l'autre, dans une expérience de communion. L'amour authentique engendre la communion des personnes, et en particulier l'Église comme communion. Et donc là, il y a toute une réforme de l'autorité dans l'Église à faire, parce que si je prétends m'imposer au nom de Dieu, et bien c'est précisément là l'erreur. Et puis surtout, ça crée, comme on voit dans certains textes du magistère, une véritable inégalité. Mmh. On parle des supérieurs religieux, des supérieurs hiérarchiques, et donc par conséquent des inférieurs. Mmh. Et cette vision est complètement fausse par rapport à cette réalité mise en lumière au 1er siècle du baptême, qui constitue tous dans une même égalité. Parce qu'il faut bien comprendre que l'ordination d'un prêtre ou d'un évêque est secondaire par rapport au baptême. Ce qui constitue l'Église, c'est le baptême qui nous fait fils et filles de Dieu, qui nous donne une très grande autorité par le don de l'Esprit-Saint. Et l'évêque et le prêtre sont au service de cette Église, et non pas pour la dominer, la diriger comme ils veulent, mais ils sont au service. Et donc de reconnaître, au fond, l'autorité de tous pour créer une Église de communion. Et donc nécessairement synodale, nécessairement une Église de dialogue, et surtout de ce discernement que faisaient les apôtres, de ce qui nous unit, eh bien c'est là où se discerne l'Esprit-Saint. Donc dès qu'il y a imposition de la volonté sur quelqu'un d'autre, il y a abus de pouvoir. Bien sûr, on peut prendre des décisions collégiales qui, après, on va dire, ben voilà, c'est ce que l'Esprit-Saint nous a donné, mais comme c'est une décision collégiale, eh bien cette décision crée une adhésion profonde du peuple de Dieu. Et là, c'est le critère d'une bonne pastorale qui crée l'adhésion.
Père Marie-Joseph, il y a bien des années, vu mon grand âge, je peux dire, il y a bien des années, dans les communautés religieuses, les supérieurs, chargés de la formation des postulantes, novices, nous mettaient en garde. Je cite de mémoire. « Si vous refusez d'obéir, on vous dira de le faire au nom de la sainte obéissance. » Fausse interprétation du vœu d'obéissance.
Oui, alors effectivement, alors mon livre, si vous voulez, il a été écrit à la suite d'un cours que j'ai donné à l'université de Fribourg sur l'histoire de la spiritualité. Et je me suis rendu compte, justement, qu'il y avait des étapes dans l'histoire de l'Église très très différentes les unes par rapport aux autres. Et notamment, il y a une période tout à fait particulière qui est le 6e siècle avec Saint Benoît. Saint Benoît, le père des moines d'Occident, il institue une nouvelle communauté religieuse, les bénédictins, avec une règle, et cette règle prend le contre-pied de tout ce qui l'a précédé. En effet, alors c'est assez impressionnant parce qu'il écrit dans sa règle, au numéro 1, « L'Esprit Saint dit en nous Abba Père, c'est le Père Abbé ». C'est un détournement de la parole de Dieu, parce que le Abba Père, c'est Dieu et c'est justement pas une personne humaine. Mais voilà, Saint Benoît va sacraliser l'autorité. Il va dire, eh bien, au chapitre 2, plus votre obéissance est prompte, meilleur elle est. Et puis surtout, vous verrez dans le Père Abbé le Seigneur. Il prend explicitement le terme de dominus, de Seigneur. Donc c'est quelqu'un qui devient incontestable. Et d'ailleurs, et c'est ça qui est très intéressant, Benoît c'était un Italien, et il fait explicitement référence au pater familias, au père de famille, donc à cette autorité familiale incontestable qui était dans les familles, où le père de famille avait une autorité absolue sur ses enfants, sur sa femme. Et alors, en fait, ce qui est très impressionnant, c'est qu'il va instituer l'Église de cette façon-là. Les prêtres séculiers, les curés vont se faire aussi appeler abbés pour avoir la même autorité que le père abbé. Et donc, on est là dans quelque chose qui est très très grave, en fait. Et surtout, quand il y a un problème par rapport à l'autorité, eh bien, on est immédiatement, si on conteste l'autorité, on est immédiatement taxé de désobéissant. Et donc, on peut pas contester. Et ça, ce qui est très impressionnant, c'est que c'est une conception qui est exactement à l'opposé de ce qui l'a précédé. Alors déjà, dans la Bible. La Bible, d'abord, le peuple juif, il est libéré de l'esclavage de Pharaon. Dieu est le libérateur de son peuple. Donc là, il y a quelque chose d'absolument fondateur pour les Juifs. Pour les Juifs, Dieu est le libérateur de l'homme. Donc il y a une notion de liberté qui naît dans le judaïsme qui est tout à fait fondamentale. Et on va retrouver ça dans le Nouveau Testament, Saint Jacques notamment, qui parle de la loi de liberté. Pourquoi il y a une loi de liberté? Parce que si on supprime la liberté, c'est là que, précisément, on supprime l'amour. S'il n'y a plus de liberté, il n'y a plus d'amour. Et donc tout s'effondre. Et ensuite, vous avez le Christ lui-même. Que votre autorité ne se fasse pas sentir comme les puissants de ce monde. Il institue une autorité tout à fait différente, qui est au service. Il va laver les pieds de ses disciples, à la stupéfaction des disciples. Donc on voit ce Jésus, il se met en dessous de la Samaritaine, il se fait serviteur, il se fait humble. Donc on est dans une attitude complètement inverse. Et au IVe siècle, alors, il y a avant, oui, il y a au IVe siècle, il y a les pères du désert. Ben, les pères du désert, ils veulent surtout pas s'imposer à leurs disciples. Et pourquoi? Parce qu'ils se considèrent pécheurs et ils disent à leurs disciples, faites comme moi, priez dans la solitude, pratiquez le travail manuel. Mais pour eux, il est hors de question de s'imposer devant ce Dieu qui dépasse tout, quoi. Je ne peux pas me comparer à Dieu. Ça, c'est fondamental chez les pères de l'Église. Et il y a deux grandes règles monastiques au IVe siècle. Celle de Saint Basile et celle de Saint Augustin. Saint Basile, le père des moines d'Orient, il a justement une vision complètement différente de celle de Saint Benoît, de deux siècles plus tard. Saint Basile, au IVe siècle, dit, numéro 1, vous obéirez au commandement de la charité. Voilà, c'est ça. Le propos du moine, c'est d'exercer l'amour, la charité. Alors, il parle bien de l'intendant, qui organise la communauté, l'igoumène, c'est l'intendant, le prieur, etc. Mais celui-là, on va le respecter tout simplement par charité. Mais il n'y a pas de vœu d'obéissance à quiconque, sinon à Dieu seul, par le commandement de la charité. Et saint Augustin, dans le même siècle, dit exactement la même chose. Il dit le propos dans sa règle de vie, il dit le propos, c'est la vie commune dans la charité. Puis dans le dernier chapitre, il parle de l'intendant, du préposé à l'intendance, et il dit, vous le respecterez parce que Dieu est en lui, mais lui doit être à vos pieds. Vous voyez? Et ça, c'est la vraie vision chrétienne des choses. On respecte les personnes à cause de Dieu, parce que Dieu est dans toute personne. Lui qui exerce une certaine autorité par l'organisation de la communauté, eh bien, il doit être à vos pieds, comme le Christ est serviteur.
De l'Église, les femmes étaient présentes et leur rôle était reconnu. Depuis, elles ont joliment disparu de l'Église du 21e siècle. Quoique, aujourd'hui, on essaie de corriger le tir, mais on risque de tomber dans l'excès contraire. Pour vous, ce rôle de la femme dans l'Église, quel est-il?
Alors, effectivement, mes recherches aussi m'ont fait prendre conscience d'une chose tout à fait fondamentale. D'abord, on voit dans le Nouveau Testament, spécialement les évangiles, les actes des apôtres, les lettres de Saint Paul, qu'il y a une place absolument nouvelle de la femme. Pourquoi? Parce qu'il faut bien se rendre compte, dans la société juive, il y avait la circoncision. Et la circoncision faisait que c'était les hommes qui dirigeaient la synagogue, et puis il y avait les prêtres du temple, qui étaient les hommes de la tribu de Lévi. tous les hommes qui dirigeaient. Et il y a une nouveauté absolument révolutionnaire dans le Nouveau Testament, c'est quoi ? C'est que c'est encore une fois le baptême. C'est-à-dire que c'est non seulement les hommes, mais aussi les femmes qui sont baptisées. Et comme elles sont baptisées, eh bien elles revêtent le Christ, comme dit saint Paul, et elles reçoivent l'Esprit Saint, tout comme les autres. Et donc elles créent une véritable égalité qui était déjà là présent dans le projet de Dieu. L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, et justement la soumission de l'homme et de la femme est le résultat, dit le livre de la Genèse, du péché originel. Ton homme te dominera et toi tu le convoiteras. La convoitise et la domination sont les signes tout à fait précis du péché. Et donc la grâce baptismale va corriger tout cela, va créer une église de communion, d'égalité. Et on voit très bien, dans les actes des apôtres, dans les lettres de saint Paul, notamment le chapitre 16 aux Romains, qu'il y a au 1er siècle des femmes qui ont de grands rôles dans la direction des églises. Et donc à ce titre, comme elles ont une autorité morale reconnue, elles font partie des anciens. Hein. Ça c'est absolument incontestable, c'est assez étonnant, mais c'est incontestable. Et par contre, on voit très bien dans les lettres de saint Paul qu'il y a tout un débat autour des femmes. Tantôt Paul dit oui, elles sont allégales, puis tantôt il y a les traditions juives, alors il y a tout un débat. Et ce qui va se passer au deuxième siècle en structurant l'église par les évêques et les prêtres et les diacres, eh bien c'est que ben, voilà, on va créer deux classes en quelque sorte, les prêtres d'un côté qui ont l'autorité et puis les laïcs qui ont plus d'autorité, et du coup les femmes n'ont plus d'autorité non plus. Et donc il y a là quelque chose qui est absolument nécessaire de corriger. Alors ce que je dis dans mon livre, c'est que la femme représente à un titre tout à fait particulier l'église épouse et mère. Or, justement, il y a quelque chose de tout à fait remarquable dans l'évangile, c'est que Jésus choisit effectivement 12 hommes pour les 12 apôtres, mais il met en face un vis-à-vis féminin. Et comment il le fait ? Eh bien, il le fait d'abord à la croix, ce sont d'abord les femmes qui sont présentes, à l'engendrement d'église, et surtout à la résurrection. Jésus apparaît d'abord aux femmes, et là il y a une véritable volonté du Christ, et il fait de ces femmes de véritables apôtres. Parce qu'un apôtre c'est quoi ? C'est une personne qui est envoyée par Dieu. Et bien c'est ce que fait Jésus avec ses femmes. Allez dire à mes frères, voilà, et elles annoncent le kérigme. Et donc il y a une véritable autorité des femmes, mais qui à mon avis représente plus précisément l'église épouse et mère, autrement dit le monde des laïcs, parce que les évêques et les prêtres représentent le Christ tête époux de l'église, mais justement ce Christ époux il met à égalité devant lui l'église épouse, puisqu'elle a reçu l'Esprit Saint, et donc elle est élevée à égalité avec le Christ. Et donc il me semble qu'il faudrait réinstituer de certaine manière les anciens, cette collégialité, cette synodalité qui serait surtout représentée par des femmes.
Mais alors, quelle proposition faites-vous pour rétablir le rôle de la femme dans l'Église d'aujourd'hui ?
Et donc, moi, ma proposition, c'est qu'il y ait un synode diocésain permanent, où il y aurait l'évêque, mais aussi des femmes éminentes, comme étaient ces femmes avec des responsabilités, femmes éminentes qui représentent le monde laïque. Et ce monde laïque, c'est très très important parce qu'il a une voix, ce sont tous les charismes des laïcs. Donc, ça permettrait d'avoir une voix spécifique de tout ce qui concerne les laïcs, la famille, le travail, la société, voire même la politique, tout ce qu'il faut évangéliser. Et là, on donnerait à l'Église une véritable voix portée par ces femmes qui donnerait une voix beaucoup plus puissante à l'Église, parce que le problème des évêques et des prêtres, c'est qu'ils ont au fond une place particulière qui est en lien avec le sacré, le divin, tandis que justement, les laïcs sont dans le monde, au sein du monde. Et donc, il faut absolument que ces laïcs, représentés par des femmes, aient une véritable voix. C'est la voix de l'épouse. Et ça me paraît extrêmement important pour la vitalité de l'Église d'aujourd'hui.
Père Marie-Joseph, merci. Je rappelle le titre du livre du Père Huguenin, « L'Église des apôtres, un modèle pour aujourd'hui ». Aux éditions des Béatitudes. Avec grande lucidité, son auteur a soulevé ce qui, aujourd'hui, est devenu une nécessité. Réinventer l'Église voulue par les apôtres, sans oublier qu'elle est aussi celle du XXIe siècle. L'équipe de Coin de Ciel se joint aux nombreux témoignages venus du monde entier pour adresser ses sincères condoléances aux familles endeuillées par la perte brutale d'un proche lors de l'incendie de Grand-Montana. Nos pensées vont aussi aux nombreux blessés et à ceux qui les entourent. Nous les accompagnons de nos prières.
Radio Fribourg, coin de ciel.